Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audiolib présente L'art de la méditation de Mathieu Ricard. Lu par Éric Pirot. Avant-propos. Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Gandhi. Pourquoi ce petit traité de méditation? Depuis 40 ans, j'ai eu la grande chance de vivre auprès de maîtres spirituels authentiques qui ont inspiré ma vie et illuminé mon chemin. Leurs précieuses instructions ont guidé mes efforts. Je ne suis pas un enseignant et reste plus que jamais un disciple. Mais il m'arrive fréquemment de rencontrer lors de mes voyages, de par le monde, des personnes qui me font part de leur désir d'apprendre à méditer. J'essaie, autant que je peux, de les orienter vers des maîtres qualifiés. Mais ce n'est pas toujours possible. C'est donc pour tous ceux qui souhaitent sincèrement s'exercer à la méditation que j'ai rassemblé ces instructions puisées aux sources les plus authentiques du bouddhisme. Se transformer intérieurement en entraînant son esprit est la plus passionnante des aventures. Et c'est le véritable sens de la méditation. Les exercices que l'on trouvera dans ce texte sont issus d'une tradition deux fois millénaire. Que l'on s'adonne à la méditation seulement 30 minutes par jour, ou que l'on s'y efforce plus intensément dans la quiétude d'une retraite, ces exercices peuvent être pratiqués de manière graduelle, indépendamment les uns des autres. Personnellement, j'ai eu l'immense fortune de rencontrer mon maître spirituel, Kangyur Rinpoche, en 1967, près de Darjeeling, en Inde, et de passer après sa mort en 1975, quelques années en retraite dans un petit ermitage en bois sur pilotis, dans la forêt qui surplombe son monastère. À partir de 1981, j'ai eu le privilège de vivre 13 ans auprès d'un autre grand maître tibétain, Dilgo Khyentse Rinpoche, et de recevoir ses enseignements. Après qu'il eut à son tour quitté le monde en 1991, je me suis souvent retiré dans un petit ermitage de montagne au Népal, à quelques heures de Katmandou, dans un centre de retraite fondé par le monastère de Chechen, où je réside habituellement. Ces périodes ont été sans conteste parmi les plus fertiles de mon existence. Depuis une dizaine d'années, je participe également à plusieurs programmes de recherche scientifique qui visent à mettre en évidence les effets de la méditation pratiquée sur de longues durées. Il en ressort qu'il est possible de développer considérablement des qualités telles que l'attention, l'équilibre émotionnel, l'altruisme et la paix intérieure. D'autres études ont également démontré les bienfaits qui découlent de 20 minutes de méditation quotidienne, pratiquées pendant 6 à 8 semaines. Diminution de l'anxiété et de la vulnérabilité à la douleur, de la tendance à la dépression et à la colère, renforcement de l'attention, du système immunitaire et du bien-être en général. Quel que soit l'angle sous lequel on envisage la méditation, celui de la transformation personnelle, du développement de l'amour altruiste ou de la santé physique, celle-ci apparaît donc comme un facteur essentiel si l'on veut mener une vie équilibrée et riche de sens. Il serait dommage de sous-estimer la capacité de transformation de notre esprit. Chacun d'entre nous dispose du potentiel nécessaire pour s'affranchir des états mentaux qui entretiennent nos souffrances et celles des autres, pour trouver la paix intérieure et pour contribuer au bien des êtres. Chapitre 1. Pourquoi méditer? Examinons sincèrement notre existence. Où en sommes-nous dans la vie? Quelles ont été jusqu'à présent nos priorités? Et qu'envisageons-nous pour le temps qu'il nous reste à vivre? Nous sommes un mélange d'ombre et de lumière, de qualités et de défauts. Est-ce là vraiment une manière d'être optimale? Un état de fait inéluctable? Si tel n'est pas le cas, comment y remédier? Ces questions méritent d'être posées, surtout si nous avons le sentiment qu'un changement serait souhaitable et possible. Toutefois, en Occident, du fait des activités qui occupent du matin au soir une partie considérable de notre énergie, nous avons moins le loisir de nous pencher sur les causes fondamentales du bonheur. Nous nous imaginons plus ou moins consciemment que plus nous multiplions nos activités, plus nos sensations s'intensifient et plus notre sentiment d'insatisfaction s'estompe. En réalité, nombreux sont ceux qui, au contraire, sont déçus et frustrés par le mode de vie contemporain. Ils se sentent démunis, mais ne voient pas d'autre solution parce que les traditions qui préconisent la transformation de soi sont souvent tombées en désuétude. Les techniques de méditation visent à transformer l'esprit. Il n'est pas nécessaire de leur attacher une étiquette religieuse particulière. Chacun de nous a un esprit. Chacun peut travailler avec celui-ci. Est-il souhaitable que nous changions? Peu d'entre nous peuvent affirmer que rien ne vaut la peine d'être amélioré dans leur façon de vivre et dans leur expérience du monde. Certains pensent que leurs travers et leurs émotions conflictuelles contribuent à la richesse de la vie et que c'est cette alchimie singulière qui fait d'eux ce qu'ils sont, une personne unique, qu'ils doivent apprendre à s'accepter ainsi, à aimer leurs défauts au même titre que leurs qualités. Ceux-là risquent fort de vivre dans une insatisfaction chronique, sans se rendre compte qu'ils pourraient s'améliorer au prix d'un peu d'effort et de réflexion. Imaginons qu'on nous propose de passer une journée entière à éprouver de la jalousie. Qui d'entre nous l'accepterait avec plaisir? En revanche, si on nous invitait à passer cette même journée le cœur plein d'amour pour les autres, la plupart d'entre nous trouveraient cette option infiniment préférable. Notre esprit est fréquemment perturbé. Nous sommes affectés par des pensées douloureuses, envahis par la colère, blessés par les paroles dures que nous adressent les autres. Dans ces moments-là, qui ne rêverait de contrôler ses émotions pour être libre et maître de lui-même? Nous nous passerions volontiers de ces tourments, mais ne sachant pas comment procéder, nous préférons penser qu'après tout, c'est la nature humaine. Or, ce qui est naturel n'est pas nécessairement souhaitable. Nous savons, par exemple, que la maladie est le lot de tous les êtres. Cela ne nous empêche pas de consulter un médecin quand nous sommes malades. Nous ne voulons pas souffrir. Personne ne se réveille le matin en pensant « Pourvu que je souffre toute la journée et si possible toute ma vie ». Quoi que nous fassions, qu'il s'agisse d'entreprendre une tâche importante, d'accomplir notre travail habituel, de nous engager dans une relation durable ou simplement de nous promener dans la forêt, de boire une tasse de thé ou de faire une rencontre fortuite, nous espérons toujours que nous en retirerons quelque chose de bénéfique pour nous-mêmes ou pour les autres. Si nous étions sûrs qu'il ne résulterait que de la souffrance de nos actes, nous n'agirions pas. Il nous arrive de connaître des moments de paix intérieure, d'amour et de lucidité. Mais la plupart du temps, ce ne sont que des sentiments éphémères qui cèdent vite la place à un autre état d'esprit. Pourtant, nous comprenons facilement que si nous entraînions notre esprit à cultiver ces moments privilégiés, cela transformerait radicalement notre vie. Nous savons tous qu'il serait souhaitable de devenir de meilleurs êtres humains et de nous transformer de l'intérieur tout en essayant de soulager la souffrance des autres et de contribuer à leur bien-être. D'aucuns pensent que l'existence est fade en l'absence de conflits intérieurs. Nous connaissons tous les tourments de la colère, de l'avidité ou de la jalousie. De même, nous apprécions tous la bonté, le contentement et la joie de voir les autres heureux. Il apparaît clairement que le sentiment d'harmonie associé à l'amour d'autrui possède une qualité propre qui se suffit à elle-même. Il en va de même de la générosité, de la patience et de bien d'autres qualités. Si nous apprenions à cultiver l'amour altruiste et la paix intérieure, et que parallèlement notre égoïsme et son cortège de frustration s'atténuaient, notre existence ne perdrait rien de sa richesse. Bien au contraire. Un changement est-il possible? La vraie question n'est donc pas « est-il désirable de changer ?» Mais est-il possible de changer? On peut en effet imaginer que les émotions perturbatrices sont si intimement associées à notre esprit qu'il nous est impossible de nous en débarrasser, à moins de détruire une partie de nous-mêmes. Certes, nos traits de caractère changent généralement peu. Observés à quelques années d'intervalle, rares sont les coléreux qui deviennent patients, les tourmentés qui trouvent la paix intérieure ou les prétentieux qui se font humbles. Cependant, aussi rares soient-ils, certains changent. Et le changement qui s'opère en eux montre bien qu'il ne s'agit pas d'une chose impossible. Nos traits de caractère perdurent tant que nous ne faisons rien pour les améliorer et que nous laissons nos dispositions et nos automatismes se maintenir, voire gagner en force pensée après pensée, jour après jour, année après année. Mais ils ne sont pas intangibles. La malveillance, l'avidité, la jalousie et les autres poisons mentaux font indiscutablement partie de notre nature. Mais il y a différentes façons de faire partie de quelque chose. L'eau, par exemple, peut contenir du cyanure et nous faire mourir sur le champ. Toutefois, mêlée à un remède, elle contribue à nous guérir. Pourtant, sa formule chimique n'a jamais changé. En elle-même, elle n'est jamais devenue ni toxique, ni médicinale. Les différents états de l'eau sont temporaires et anecdotiques, comme nos émotions, nos humeurs et nos traits de caractère. Un aspect fondamental de la conscience. On comprend cela quand on saisit que la qualité première de la conscience, qui est simplement de connaître, n'est intrinsèquement ni bonne ni mauvaise. Si l'on regarde par-delà le flot turbulent des pensées et des émotions éphémères qui traversent notre esprit du matin au soir, on peut toujours constater la présence de cet aspect fondamental de la conscience qui rend possible et sous-tend toute perception, quelle que soit sa nature. Le bouddhisme qualifie cet aspect connaissant de lumineux, car il éclaire tout à la fois le monde extérieur et le monde intérieur des sensations, des émotions, des raisonnements, des souvenirs, des espoirs et des craintes, en nous les faisant percevoir. Bien que cette faculté de connaître sous-tende chaque événement mental, elle n'est pas en elle-même affectée par cet événement. Un rayon de lumière peut éclairer un visage haineux ou un autre souriant, un joyau aussi bien qu'un tas d'ordures. Mais la lumière n'est en elle-même ni malveillante, ni aimable, ni propre, ni sale. Cette constatation permet de comprendre qu'il est possible de transformer notre univers mental, le contenu de nos pensées et de nos expériences. En effet, le fond neutre et lumineux de la conscience nous offre l'espace nécessaire pour observer les événements mentaux au lieu d'être à leur merci, puis pour créer les conditions de leur transformation. Un simple souhait ne suffit pas. Nous ne pouvons pas choisir ce que nous sommes, mais nous pouvons souhaiter nous améliorer. Cette aspiration va donner une direction à notre esprit. Un simple souhait ne suffisant pas, il nous incombera de le mettre en œuvre. Nous ne trouvons pas anormal de passer des années à apprendre à marcher, à lire, à écrire et à suivre une formation professionnelle. Nous passons des heures à nous exercer physiquement pour être en forme, par exemple, en pédalant avec assiduité sur une bicyclette d'appartement qui ne va nulle part. Entreprendre une tâche, quelle qu'elle soit, nécessite d'éprouver un minimum d'intérêt ou d'enthousiasme. Et cet intérêt provient du fait que nous sommes conscients des bienfaits que nous en recueillerons. Par quel mystère l'esprit échapperait-il à cette logique et pourrait-il se transformer sans le moindre effort, simplement parce qu'on le souhaiterait? Cela n'aurait pas plus de sens que d'espérer jouer un concerto de Mozart en pianotant de temps à autre. Nous déployons beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions extérieures de notre existence. Mais en fin de compte, c'est toujours notre esprit qui fait l'expérience du monde et le traduit sous forme de bien-être ou de souffrance. Si nous transformons notre façon de percevoir les choses, nous transformons la qualité de notre vie. Et ce changement résulte d'un entraînement de l'esprit que l'on appelle méditation. Qu'est-ce que méditer? La méditation est une pratique qui permet de cultiver et de développer certaines qualités humaines fondamentales. De la même façon que d'autres formes d'entraînement nous apprennent à lire, à jouer d'un instrument de musique, ou à acquérir toute autre aptitude. Étymologiquement, les mots sanskrits et tibétains traduits en français par méditation sont respectivement bhavana, qui signifie cultiver, et gom, qui signifie se familiariser. Il s'agit principalement de se familiariser avec une vision claire et juste des choses et de cultiver des qualités que nous possédons tous en nous, mais qui demeurent à l'état latent aussi longtemps que nous ne faisons pas l'effort de les développer. Certains prétendent que la méditation n'est pas nécessaire parce que les expériences constantes de la vie suffisent à former notre cerveau et donc nos manières d'être et d'agir. Il ne fait pas de doute que c'est grâce à cette interaction avec le monde que la plupart de nos facultés, celles des sens par exemple, se développent. Pourtant, il est possible de faire beaucoup mieux. Les recherches scientifiques dans le domaine de la neuroplasticité montrent que toute forme d'entraînement induit des réorganisations importantes dans le cerveau, au niveau fonctionnel comme au plan structurel. Commençons donc par nous demander ce que nous souhaitons véritablement dans l'existence. Nous contenterons-nous d'improviser jour après jour? Ne voyons-nous pas, au fond de nous-mêmes, ce mal-être diffus, toujours présent, alors que nous avons soif de bien-être et de plénitude? Habitués à penser que nos défauts sont inéluctables, essuyant des revers tout au long de notre vie, nous en venons à considérer notre dysfonctionnement comme un fait acquis, sans prendre conscience qu'il nous est possible de nous libérer de ce cercle vicieux dont nous sommes là. Du point de vue du bouddhisme, chaque être porte en lui le potentiel de l'éveil. Aussi sûrement, disent les textes, que chaque grain de sésame est saturé d'huile. Malgré cela, nous errons dans la confusion comme des mendiants qui, pour utiliser une autre comparaison traditionnelle, sont à la fois pauvres et riches, car ils ignorent qu'un trésor est enfoui sous leur cahute. Le but de la voie bouddhiste est de rentrer en possession de cette richesse ignorée et de donner ainsi à notre vie le sens le plus profond qui soit. Se transformer soi-même pour mieux transformer le monde. C'est aussi en développant nos qualités intérieures que nous pouvons le mieux aider les autres. Notre expérience personnelle, bien qu'elle soit au départ notre seule référence, doit par la suite nous permettre d'adopter un point de vue plus vaste qui prenne en compte tous les êtres. Nous dépendons tous les uns des autres. Et personne ne désire souffrir. Être heureux au milieu de l'infinité des autres qui souffrent serait absurde, si tant est que ce soit réalisable. La quête du bonheur, uniquement pour soi-même, est vouée à un échec certain, puisque l'égocentrisme est la source même de notre mal-être. Quand le bonheur égoïste est le seul but de la vie, la vie est bientôt sans but, écrivait Romain Rolland. Même en affichant toutes les apparences du bonheur, on ne peut être véritablement heureux en se désintéressant du bien d'autrui. En revanche, l'amour altruiste et la compassion sont les fondements du bonheur authentique. Ces propos ne découlent pas d'une intention moralisante. Il reflète simplement la réalité. Rechercher le bonheur uniquement pour soi est la meilleure façon de ne rendre heureux ni soi-même, ni autrui. On pourrait croire qu'il est possible de s'isoler des autres pour assurer plus facilement son propre bien-être. À chacun d'en faire autant de son côté, et tout le monde sera heureux. Mais le résultat ainsi obtenu sera à l'opposé de ce que l'on désirait. Tiraillé entre espoir et crainte, on rendra sa vie misérable et l'on ruinera également celle de tous ceux qui nous entourent. Au bout du compte, tout le monde sera perdant. L'une des raisons fondamentales de cet échec est que le monde n'est pas constitué d'entités autonomes, dotées de propriétés intrinsèques qui les rendraient, par nature, belles ou laides, amies ou ennemies. Les choses et les êtres sont essentiellement interdépendants et en perpétuelle évolution. De plus, les éléments mêmes qui les constituent n'existent, eux aussi, qu'en relation les uns avec les autres. L'égocentrisme se heurte sans cesse à cette réalité et n'engendre que frustration. L'amour altruiste, ce sentiment qui, selon le bouddhisme, consiste à souhaiter que les autres soient heureux, de même que la compassion, définie comme le désir de remédier à la souffrance d'autrui et à ses causes, ne sont pas simplement de nobles sentiments. Ils sont fondamentalement en harmonie avec la réalité des choses. L'infinité des êtres veut éviter de souffrir, tout autant que nous-mêmes. Par ailleurs, comme nous sommes tous interdépendants, nos bonheurs et nos malheurs sont intimement liés à ceux des autres. Cultiver l'amour et la compassion est un pari doublement gagnant. L'expérience montre que ce sont les sentiments qui nous font le plus de bien et que les comportements qu'ils engendrent sont perçus par autrui comme bienfaisants. Lorsqu'on est sincèrement concerné par le bien-être et la souffrance des autres, il devient nécessaire de penser et d'agir de façon juste et éclairée. Pour que les actes accomplis dans le but d'aider autrui aient véritablement des conséquences bénéfiques, ils doivent être guidés par la sagesse. Une sagesse qui s'acquiert par la méditation. La raison d'être ultime de la méditation est de se transformer soi-même pour mieux transformer le monde, ou de devenir un être humain meilleur pour mieux servir les autres. Elle permet de donner à la vie son sens le plus noble. Un effet global. Si le but premier de la méditation est de transformer notre expérience du monde, il s'avère également que l'expérience méditative a des effets bénéfiques sur la santé. Depuis une dizaine d'années, de grandes universités américaines, comme l'université de Madison au Wisconsin, celle de Princeton, d'Harvard et de Berkeley, de même que des centres à Zurich et à Maastricht, en Europe, mènent des recherches intensives sur la méditation et son action à court et à long terme sur le cerveau. Des méditants expérimentés, qui totalisent entre 10 000 et 60 000 heures de méditation, ont démontré qu'ils avaient acquis des capacités d'attention pures que l'on ne retrouve pas chez les débutants. Ils sont capables, par exemple, de maintenir une vigilance quasi parfaite pendant 45 minutes sur une tâche particulière, alors que la plupart des gens ne dépassent pas 5 ou 10 minutes au terme desquelles ils multiplient les erreurs. Les méditants expérimentés ont la faculté d'engendrer des états mentaux précis, ciblés, puissants et durables. Des expériences ont montré notamment que la zone du cerveau, associée à des émotions comme la compassion par exemple, présentait une activité considérablement plus grande chez les personnes qui avaient une longue expérience méditative. Ces découvertes indiquent que les qualités humaines peuvent être délibérément cultivées par un entraînement mental. Il n'entre pas dans le cadre de ce texte de les détailler, mais signalons qu'un nombre croissant d'études scientifiques indiquent également que la pratique de la méditation à court terme diminue considérablement le stress, dont les effets néfastes sur la santé sont bien établis, l'anxiété, la tendance à la colère, laquelle diminue les chances de survie après une chirurgie cardiaque, et les risques de rechute chez les personnes qui ont préalablement vécu au moins 2 épisodes de dépression grave. 8 semaines de méditation, de type MBSR, à raison de 30 minutes par jour, s'accompagnent d'un renforcement notable du système immunitaire, des émotions positives et des facultés d'attention, ainsi que d'une diminution de la tension artérielle chez les sujets hypertendus et d'une accélération de la guérison du psoriasis. L'étude de l'influence des états mentaux sur la santé, autrefois considérée comme fantaisiste, est donc de plus en plus à l'ordre du jour de la recherche scientifique. Sans vouloir faire de sensationnalisme, il importe de souligner à quel point la méditation et l'entraînement de l'esprit peuvent changer une vie. Nous avons tendance à sous-estimer le pouvoir de transformation de notre esprit et les répercussions que cette révolution intérieure, douce et profonde, entraîne sur la qualité de notre vécu. Une vie bien remplie n'est pas faite d'une succession ininterrompue de sensations plaisantes, mais d'une transformation de la manière dont nous comprenons et traversons les aléas de l'existence. L'entraînement de l'esprit permet non seulement de remédier aux toxines mentales, comme la haine et l'obsession qui empoisonnent littéralement notre existence, mais aussi d'acquérir une meilleure connaissance de la façon dont l'esprit fonctionne et une perception plus juste de la réalité. C'est cette perception plus juste qui nous permet de faire face au haut et au bas de la vie, non seulement sans être distrait ou brisé, mais aussi en sachant tirer d'eux un enseignement profond.